Le journal Bruno Duvic.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans le journal de 13h. Au sommaire aujourd'hui, quand le ministre de l'Intérieur revient sur ses propres déclarations. Christophe Castaner ce matin sur les manifestants qui ont fait irruption mercredi à la Salpêtrière.
J'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot « attaque ». Je me dis que je n'aurais pas dû l'employer.
Les critiques et appels à démission se multipliaient. Au-delà de cet épisode, des vidéos montrant des gestes violents de policiers circulent depuis hier sur les réseaux. Enquête ouverte à propos d'un jet de pavé par un CRS et d'une gifle à un manifestant. Des campus connectés dans 13 villes de France à la rentrée. Vous habitez Cahors, vous pouvez suivre l'enseignement de la Sorbonne, enseignement à distance mais encadré par des tuteurs. Pour en parler, notre invité est la ministre de l'enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Le récit de l'envoyé spécial de France Inter à Tripoli, Omar Waman, la France critiquée pour son soutien au maréchal Haftar, l'homme qui est accusé de déstabiliser la Libye. Dans ce journal encore, que demandent les patients victimes de maladies chroniques? Les résultats d'une vaste enquête sont publiés. Eh bien, ils veulent que les annonces de maladies soient plus respectueuses, ils veulent être mieux associés au traitement et pouvoir échanger entre eux. Les vélos électriques, c'est formidable, les ventes explosent en France, mais que faire des batteries usagées? Une filière de recyclage se met en place. J'ai testé pour vous le vendredi dans ce journal. À Lyon, Christophe Vincent a testé le périphérique à vitesse réduite. La curiosité du moment, les vols de sulky se multiplient dans l'Orne. Le météorologue du jour, bonjour Sébastien Léas.
Bonjour Bruno, bonjour à tous.
Que dit Météo France pour cette fin de semaine?
Eh bien, ciel changeant pour cet après-midi, on aura des éclaircies mais les averses seront aussi nombreuses. Seules les plages laisseront les parapluies au placard. Le sud de la Corse et les côtes entre la Vendée et le Pays Basque auront même un soleil généreux. Ciel nettement plus voilé entre la Provence et le Roussillon avec en plus du Mistral et de la Tramontane. Et puis la baisse des températures se poursuit avec 12 à 17 degrés en général, localement plus de 20 degrés entre la Corse et la Côte d'Azur. Mais demain sera bien frisquet sur la moitié nord.
Le foot, saison terminée ou presque pour Mbappé. Deux matchs de suspension après son mauvais tacle en finale de la Coupe de France. Et puis tout à l'heure, nous irons faire la fête à Lille sur le thème de l'Eldorado. C'est Lille 3000. Le 13h, vous avez le programme, c'est parti. Le ministre de l'Intérieur était sous la grêle depuis hier, sous la grêle pour avoir parlé d'attaque à propos de ce qui s'est passé à l'hôpital de la Salpêtrière mercredi à Paris. Avec toute la prudence nécessaire, on peut dire que les dernières vidéos et témoignages contredisent cette version d'un hôpital qui aurait été volontairement attaqué par des manifestants radicaux. En déplacement ce matin à Toulon, Christophe Castaner s'est vu contraint de manger son chapeau, Cyril Graziani.
Christophe Castaner a finalement voulu éteindre l'incendie au plus vite, alors qu'hier soir encore son entourage maintenait ses propos. Mais entre la fin des gardes à vue et toutes les images sur les réseaux sociaux, le ministre de l'Intérieur a préféré revenir sur des paroles plus que controversé. Il a expliqué que lors de son arrivée à la Pitié-Salpêtrière, les témoignages, notamment de la directrice, l'émotion de certains personnels l'avait convaincu et l'ont fait s'emballer.
À l'issue de ces échanges, j'ai déclaré en effet que, je me cite, des gens avaient attaqué un hôpital et que des infirmières avaient dû préserver le service de réanimation. Intrusion violente, c'est le mot qu'a utilisé la directrice de l'hôpital. Attaque, c'est celui qui m'est venu après avoir entendu le récit ému des personnels. Retenez le terme que vous voudrez. Mais j'entends le reproche qui m'est fait d'avoir utilisé le mot attaque. Je souhaite qu'aucune polémique n'existe sur ce sujet. Et en le voyant l'être, je me dis que, le voyant naître, je n'aurais pas dû l'employer.
Christophe Castaner préfère évoquer le terme d'intrusion violente, insuffisant néanmoins pour l'opposition. Olivier Faure continue à parler de mensonge d'État. Ce matin, avant cette déclaration, le groupe La France Insoumise à l'Assemblée avait même annoncé qu'il proposerait la création d'une commission d'enquête parlementaire.
Et après qu'il a corrigé ses propos, Fabien Roussel, le communiste, parle de la reconnaissance de son incompétence à propos de Christophe Castaner. Quelle réaction à droite? Écoutez Gilles Platré, le porte-parole des Républicains.
Le seul problème dans cette affaire, c'est que la parole du ministre qui est prononcée à la première donne le ton et tout le monde surréagit sur cet événement parce qu'on a plutôt tendance à faire confiance à la parole du ministre. Or là, il vient de nous donner la démonstration qu'on ne peut pas lui faire confiance et qu'il était dans l'excès, sans doute encore une fois pour dramatiser l'événement. Et nous souhaitons que le président de la République, après des tas d'exemples de son incompétence, on tire les conclusions. On ne peut pas rester avec un ministre de l'Intérieur qui ment au peuple français dans des événements aussi tendus. Ce n'est pas à nous de réclamer des têtes, mais simplement il y a une logique dans les institutions. Et à un moment donné, quand un ministre multiplie les bourdes, surtout à ce niveau de responsabilité qu'est le ministère de l'Intérieur, il y a quand même des questions de fond à se poser au sommet de l'État.
Un propos recueilli par Maxence Lambrecq, par Cyril Graziani, pardon. On notera aussi dans les réactions avant que Christophe Castaner ne corrige ses propos, la prise de distance de Valérie Pécresse, beaucoup plus nuancée que beaucoup dans l'opposition. Il a un peu surréagi sur cette affaire, dit Valérie Pécresse, mais franchement, il faut en finir avec la culture de l'excuse. Rien ne justifie une intrusion dans un hôpital public. Désolé, dit-elle encore, je suis dans le parti de l'ordre et vous ne m'en ferez pas dévier. Autre information, après la journée du 1er mai, mercredi, des enquêtes internes ouvertes après la diffusion de deux vidéos, l'une montrant un policier giflant un manifestant, boulevard du Montparnasse, l'IGPN est saisi. Et un CRS aussi qui lance un pavé lors des chauffourées avec les Black Blocs, c'était mercredi, lors de la manif du 1er mai. Donc le parquet ouvre une enquête préliminaire et a saisi la police des polices. C'est une réponse du gouvernement aux gilets jaunes dans le domaine de l'éducation. Comment améliorer l'offre de formation pour les étudiants dans les villes petites et moyennes? Les campus connectés vont voir le jour. Pour en parler, l'invité de ce journal est la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal. Bonjour madame.
Bonjour.
13 campus connectés dans 13 villes. Objectif, une centaine de villes en 2022. J'en cite une petite moitié tout de suite, là, des 13. L'autre moitié tout à l'heure. Saint-Brieuc, Cahors, Le Vigan, Privas, Carcassonne, Saint-Raphaël. Voilà quelques villes concernées. Quel mode d'emploi, madame Vidal, pour ces campus connectés?
Le principe est très simple. Ce sont des lieux qui sont identifiés, organisés pour les recevoir. C'est plus de 60 formations à distance, mais c'est aussi une présence dans ces lieux de tuteurs, d'accompagnateurs. On a prévu d'en avoir un pour 10 étudiants, de façon à ce que la motivation soit présente et que ces jeunes puissent être aussi accompagnés. Et puis, ils sont inscrits dans les établissements qui proposent les formations. Ils ont donc une carte d'étudiant, accès à l'ensemble des services de ces établissements. Et bien sûr, les diplômes correspondants grâce à ces formations à distance, avec de la présence humaine, avec de l'accompagnement.
Donc je suis à Cahors, je peux suivre une formation à la Sorbonne par exemple, mais je vais dans un lieu précis, il y a des gens pour m'encadrer, j'ai une carte d'étudiant, c'est ça, il y a une alliance du virtuel principe. Et d'un cadre physique.
Absolument, c'est tout à fait le principe.
60 formations en tout, ça veut dire un peu moins de 5 formations par campus, ou dans chaque campus on proposera les 60 formations?
Non, les 60 formations seront bien proposées sur chaque campus et notre objectif, c'est de travailler avec ces villes qui vont accueillir ces campus connectés, celles qui ont déjà été identifiées et puis celles qui candidateront, avec les régions bien sûr, et que nous puissions aussi lancer auprès des établissements d'enseignement supérieur des appels d'offres pour construire de nouveaux cursus qui correspondront aussi au bassin d'emploi, de façon à ce que l'on puisse avoir à la fois une offre de formation d'enseignement supérieur traditionnel qui corresponde à des licences existantes dans les différents établissements, mais aussi des offres de formation plus spécialisées et plus spécifiquement construites en fonction du bassin d'emploi.
Des personnes encadreront les étudiants, quel profil ?
Alors, c'est vraiment des profils de tuteurs, de médiateurs, des gens qui vont être capables de motiver les étudiants.
Pas des enseignants,
sachant
donc
que l'accompagnement pédagogique, lui, se fera par du tutorat en distanciel, par les universités et les écoles qui proposent les formations, mais aussi grâce à des personnes physiques, des enseignants venant des universités de proximité, qui pourront aussi se déplacer et venir faire des sessions spéciales d'accompagnement dans ces campus connectés.
Et la formation suivie à distance sera forcément celle d'une université à proximité? Par exemple, si je suis à Saint-Raphaël, je suis forcément une formation de Nice ou de Toulon, ou ça peut être une formation parisienne, par exemple?
Non, pas du tout. C'est vraiment l'ensemble des formations offertes sur l'ensemble des campus. Vous pourrez être à Saint-Raphaël et être inscrit dans la licence sciences et technologies mathématiques de Sorbonne Université.
Et le diplôme portera quel sceau? Ce sera le sceau de Saint-Raphaël ou le sceau de la Sorbonne?
Le sceau de la Sorbonne, puisque c'est exactement les mêmes cours qui seront dispensés et les examens seront préparés par l'université en question. Donc c'est un vrai diplôme de l'université dans lequel l'étudiant sera de fait inscrit.
Mise en place dès la rentrée prochaine ?
Dès la rentrée prochaine, oui.
Combien d'étudiants ?
Alors, ça va dépendre évidemment du nombre d'étudiants qui vont se déclarer intéressés. On espère sur cette première vague entre 500 et 600 étudiants sur ces campus connectés.
Quelle piste, Madame Vidal, pour réformer l'accès aux grandes écoles, voire très grandes écoles, ENA, Polytechnique, École normale supérieure, ça fait partie des sujets qui sont sur la table. Quelle piste pour réformer cet accès et pour le diversifier ?
Alors, d'abord, il faut partir du constat. Hein. C'est vrai que nous devons augmenter la diversité de recrutement et de profils dans l'ensemble des grandes écoles de l'enseignement supérieur. Et donc, rien n'est fermé.
Le problème est social ou géographique, c'est-à-dire trop d'enfants de milieux aisés ou trop de Parisiens ?
En fait, les choses sont un petit peu liées quelque part. Hein. Quand on regarde quelles sont les classes préparatoires qui ont le plus gros taux de succès sur les concours des très grandes écoles, si je peux les appeler comme ça, on voit qu'elles sont concentrées effectivement en région parisienne. Et donc c'est à la fois une question géographique et une question sociale. Donc c'est vraiment une réflexion qui est engagée de ce point de vue-là. Et comment est-ce que l'on peut faire en sorte qu'un jeune qui n'habite pas la région parisienne et qui n'est pas d'un milieu social informé ou favorisé puisse accéder à ces grandes écoles s'il en a évidemment les capacités intellectuelles ? C'est vraiment tout l'enjeu des semaines et des mois devant nous.
Et le calendrier pour les propositions et les décisions, Madame Vidal, c'est l'affaire de quoi ? Quelques semaines, quelques mois ?
Alors, l'idée, c'est qu'effectivement, on puisse, dans les semaines, les mois qui viennent, faire des propositions concrètes, regarder l'existant et regarder comment est-ce que l'on corrige cette situation qui, en fait, s'est accrue année après année.
Donc, si ça s'applique, c'est plus pour l'année 2021, pas avant, hein.
Probablement quelques expérimentations le plus tôt possible, donc dès la rentrée 2020, et probablement effectivement une généralisation sur la rentrée 2021.
La ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, entretien enregistré en fin de matinée, et j'ai cité une partie des villes concernées par ces campus connectés au début de l'entretien. Voici les autres, Chaumont, Redon, Bar-le-Duc, Lons-le-Saunier, Autun, Nevers et Montreux-Fontionne. Bonjour Delphine Simon.
Bonjour.
Nous avons apporté détailler là une réponse apportée dans le domaine de l'éducation aux revendications des Gilets jaunes, le sentiment d'abandon de la France, des villes petites et moyennes. Autre réponse détaillée au fil des jours, la baisse de l'impôt sur le revenu pour les deux premières tranches, les contribuables les moins riches. Coût estimé, rien que pour cette mesure, 5 milliards, 17 milliards en tout pour les différentes annonces depuis décembre. Alors, quelles économies en face ? La réponse est un tout petit peu moins floue depuis ce matin. Delphine, le ministre de l'économie, apporte quelques précisions.
Oui, ou en tout cas, il exclut plusieurs pistes. Pas question, selon Bruno Le Maire, de toucher au dispositif qui contribue le plus à la compétitivité des entreprises. Autrement dit, le gouvernement ne touchera pas aux deux principales niches fiscales dont elle bénéficie. Le crédit impôt compétitivité emploi, de toute façon transformé en baisse des cotisations. Quant au crédit impôt recherche, il contribue chaque année à attirer de nombreuses entreprises étrangères en France. À ce stade, trop tôt pour dire quelle niche sera supprimée ou recalibrée, mais on peut parier qu'il sera difficile de toucher aussi à l'avantage sur le gazole non routier, supprimé puis rétabli l'an passé. Quant à la réduction de TVA pour la restauration, elle n'est pas concernée non plus. Cela équivaudrait à taxer les ménages, selon Bruno Le Maire. Bref, l'équation s'annonce particulièrement compliquée. Et de toute façon, Bercy se montre rassurant à l'égard des entreprises. Cette baisse d'impôts, elle ne sera qu'en partie financée par des économies sur leur niche fiscale. Il y aura aussi des économies sur les opérateurs publics. Une revue de détail doit être menée, à chaque ministère de faire des propositions. Quant aux arbitrages, ils seront rendus par Matignon le mois prochain.
Consulter les Français est à la mode après le grand débat. Même pour la reconstruction de Notre-Dame, ils pourront s'exprimer, promet ce matin le ministre de la Culture.
France Inter, le journal de 13h. Bruno Duvic.
La Libye, c'est une guerre civile juste de l'autre côté de la Méditerranée, dans une zone où se joue la lutte contre le terrorisme et par ailleurs dans un pays de transit et de départ des migrants. Et la France est soupçonnée d'appuyer celui qui déstabilise le pays. Il y a un mois, le maréchal Haftar lançait ses troupes à l'assaut de Tripoli, où siège le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Les combats continuent dans la banlieue de la capitale. Est-ce que le maréchal Haftar a le soutien de Paris ? Réponse ambiguë du ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian dans une interview au Figaro ce matin. La France soutient le gouvernement reconnu au plan international, mais le maréchal fait partie de la solution. Il a lutté contre le terrorisme. Quoi qu'il en soit, l'image de la France en Libye se dégrade. Envoyé spécial de France Inter à Tripoli, Omar Waman.
À Tripoli, les habitants n'ont pas de mots assez durs pour évoquer la position française, selon laquelle le général Haftar fait partie de la solution. Mais ce qui est surtout reproché, c'est le soutien tacite à un homme qui n'a eu de cesse de vouloir torpiller le processus de réconciliation qui devait mener à des élections. En faisant de Khalifa Haftar un interlocuteur incontournable sur la scène libyenne, Paris lui a permis de renforcer son emprise sur le pays avant de se lancer à la conquête de Tripoli, où siège le gouvernement d'union nationale reconnu par la communauté internationale, mais contrôlé par des milices toutes puissantes. La France, qui a une vision régionale, veut mettre fin au chaos qui règne en Libye. Mais un mois après le début de l'offensive de Khalifa Haftar sur la capitale, c'est l'impasse totale. L'image de la France aux yeux de nombreux Libyens s'est fortement dégradée, accusée de vouloir le retour de la dictature. Une image qui pourrait se détériorer davantage dans les prochains jours si l'homme fort de l'Est libyen décidait d'utiliser sa supériorité militaire, notamment dans les airs, pour forcer le passage au risque de provoquer de lourdes pertes humaines et d'importantes destructions. Tripoli, Omar Waman, France Inter.
Ce 3 mai, la journée mondiale de la liberté de la presse. Sur ce terrain, des batailles sont perdues en ce moment. L'association Reporters sans frontières a publié il y a quelques jours son classement de la liberté de la presse dans le monde. 180 pays classés. Et ce constat, un accroissement des dangers, un niveau de peur inédit dans certains endroits. Nous allons en Chine, qui est 149e dans ce classement. La Chine, Dominique André, vous qui êtes correspondante de France Inter à Pékin, c'est clairement une zone rouge pour la liberté de la presse.
Être journaliste en Chine est de plus en plus compliqué au fil des années. La surveillance par des moyens technologiques sophistiqués rend la tâche difficile et c'est encore plus vrai pour les journalistes chinois qui font face à la censure au sein des rédactions. Reporters sans frontières appelle les autorités chinoises à faire la lumière sur le suicide il y a 6 mois d'une ancienne rédactrice en chef d'une publication du quotidien du Peuple. Une jeune journaliste chinoise qui travaille dans un magazine économique a accepté de parler de son quotidien anonymement.
Dans mon journal, on ne touche pas à ce qui concerne les entreprises d'État. Le contrôle est de plus en plus serré. Les sujets qu'on traitait l'an dernier, il n'est plus possible d'en parler cette année. Ce genre de censure est aussi possible d'un mois sur l'autre. Tencent, qui a créé WeChat, l'équivalent de WhatsApp, a mis en place une restriction sur la publication d'articles de journaux financiers, ce qui prouve qu'il y a un tour de vis général sur tout ce qui touche à l'information. Notre pays est une dictature. La liberté est limitée dans tous les domaines. Je ne suis pas surprise de cette 177e place. Je pense que ce classement reflète objectivement la situation de la liberté de la presse aujourd'hui en Chine.
Il est impossible pour les journalistes chinois de traiter les sujets sensibles concernant les dirigeants du pays. La pression s'est accentuée depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012. Pékin, Dominique André, France Inter.
Les situations ne sont évidemment pas comparables en Chine et en France. Cela n'empêche pas de relever les manquements. Les syndicats de journalistes demandent à être reçus à Matignon ou l'Élysée. Ils estiment que les entraves au travail des journalistes se multiplient, notamment dans les manifestations de ces dernières semaines. Dans les minutes à venir, histoires diverses et variées de moyens de transport, la curiosité du jour, des vols de sulky dans l'Orne. Nous avons testé le périphérique à vitesse réduite à Lyon. Et puis, comment recycler les batteries de vélos électriques. D'abord, tout autre sujet, ce que les patients demandent à leur médecin. Eh oui, que pensent les patients de leur prise en charge quand ils souffrent d'une maladie chronique, cancer, diabète, hypertension? Une vaste enquête a été menée, vaste cohorte de plus de 25 000 malades constitués pour répondre à cette question. Et des résultats viennent d'être publiés dans le British Medical Journal. Question, que changeriez-vous dans votre prise en charge? Réponse des malades, détail Véronique Julia.
Plus de 1600 réponses ont été épluchées. Âge moyen des malades qui se sont exprimés, 49 ans, les trois quarts sont des femmes. Une quinzaine de pathologies étaient représentées, rhumatisme, cancer, asthme ou diabète notamment. Sans surprise, c'est le rapport patient-médecin qui semble d'abord à améliorer. Une patiente décrit notamment la manière employée, très brutale, pour lui annoncer son cancer. Autre reproche, subir la décision du corps médical pour le traitement sans avoir voix au chapitre. Ça peut anéantir de ne pas pouvoir donner son avis, explique une autre. Des patients avides aussi de pouvoir échanger entre eux pour pour partager l'expérience, s'entraider, dédramatiser aussi. Le parcours du patient est perfectible également. Les malades sont déjà fragilisés, pas envie de se débattre tout seul. Ils voudraient un interlocuteur unique à l'hôpital qui coordonnerait l'équipe de soins et qui serait capable de répondre à leurs questions entre deux consultations tous les 6 mois à l'hôpital. Dans les régions isolées, un répertoire plus lisible des spécialistes capables de les soigner est également demandé. En tout, près de 4000 suggestions qui n'ont pas vocation à rester lettre morte. Les chercheurs veulent s'en servir à terme pour faire bouger les choses et inspirer les soignants, les formateurs comme les législateurs.
Un mot de sport et la fin de saison pourrie du PSG, les défaites qui s'enchaînent et les suspensions également. Kylian Mbappé doit encore purger 2 matchs de suspension après son vilain tacle en finale de la Coupe de France et une procédure est ouverte contre Neymar pour son geste d'humeur envers un spectateur. C'est ce que précise ce matin la Fédération française de foot, l'instance disciplinaire. En cyclisme, pas de Giro, le Tour d'Italie pour Alejandro Valverde. Le cycliste espagnol a chuté à l'entraînement. Nous ouvrons une vaste page transport dans ce journal. Et d'abord, ce constat, la vente de vélos électriques explose en France. Ces ventes ont triplé en l'espace de 5 ans. Que faire des batteries usagées? Eh bien, Sandy Dauphin, une filière de recyclage se met en place.
Le boom des ventes de vélos électriques depuis 2017 va générer dans les années à venir des dizaines de milliers de batteries usagées. En janvier 2018, une filière a été créée par le syndicat professionnel du cycle, l'USC. Elle repose sur le bon vouloir des marques, mais pour Virgile Caillé, délégué général de l'Union Sport et Cycle, le premier bilan est positif.
On a 35 industriels aujourd'hui d'ores et déjà impliqués dans la filière. Ça représente plus de 70% des batteries mises sur le marché. Et puis, près d'un millier de points de collecte actuellement pour les consommateurs. Pour une filière qui, je le rappelle, a 18 mois d'existence à peine, c'est très encourageant.
70% du poids d'une batterie usagée de vélo est recyclable, explique Frédéric Edouin, directeur général de Corépil, l'éco-organisme en charge du recyclage des piles en France et partenaire de cette nouvelle filière vélo.
On recycle la plupart des métaux comme l'acier, le fer, le nickel, dans certains cas le cobalt ou le manganèse. Le lithium, qui est un métal très performant, on a besoin d'en mettre que très très peu dans les piles ou les batteries au lithium, c'est de l'ordre de 1 à 2%. Donc à ce stade-là, il n'est pas recyclé dans nos procédés.
Pour connaître les points de collecte des batteries usagées de vélo, un site internet, jerecyclemespiles.com.
Des vélos électriques aux voitures, l'actualité a été assez chargée pour les automobilistes cette semaine. Le prix des carburants est à nouveau très élevé, sans plomb 95 en particulier, au plus haut depuis 6 ans. À Paris, une réflexion est lancée pour diminuer la vitesse sur le périphérique. Et à Lyon, c'est déjà fait. Depuis lundi, on est passé de 90 à 70 km/h sur le périph. Objectif, moins de pollution, moins de nuisances, moins d'accidents, plus de fluidité. Est-ce que c'est le cas? J'ai testé pour vous chaque vendredi dans le journal de 13h. Aujourd'hui, Christophe Vincent, vous avez testé ce périph lyonnais à vitesse réduite.
Je suis porte du Val-Vert à Tassin, à l'entrée ouest de ce périphérique. C'est parti pour 25 km avec, pour commencer, une portion de 10 km à péage, presque entièrement souterraine. Voilà, on est à 70 à l'heure sur la voie de droite de ce premier tunnel. Et on est un petit peu les seuls à cette vitesse. Ça déboule de partout. Il y a une ambulance qui vient de passer. On a vu, elle est plutôt à 90 ou 100 km heure. Donc, au-delà de la limite autorisée, évidemment. On a fait une pause sur le seul parking à mi-parcours de ce périph. Et la vue du micro France Inter par les automobilistes les pousse visiblement à ralentir. On intrigue et on inquiète ces conducteurs qui sont tous à 70 au niveau du parking. Vous croyez à l'efficacité de cette mesure ou pas vraiment?
On verra à la longue, hein, on verra.
Vous êtes resté à 70, vous avez respecté...
Je respecte la vitesse, ouais. Mais c'est compliqué.
Et les autres, vous klaxonnez?
Il y en a qui klaxonnent et d'autres qui doublent.
Petite pause à la station-service. Bonjour monsieur. Alors, les 70 à l'heure sur le périph?
Je vois pas trop l'intérêt, c'est plus pour le pognon Afrique, hein. C'est pour les radars. Hein.
Vous pensez que ça pollue moins ou que ça fait moins de bruit?
Pollution, ça doit réduire un petit peu, mais bon, ça n'empêche pas les gens à rouler à plus de 70, hein, entre les radars.
Porte de Gerland, fin du périph, ça sent l'œuf pourri, ça vient directement du couloir de la chimie, donc on va remonter les vitres. Alors, bilan de l'opération, est-ce qu'on roule mieux désormais? Pas sûr, parce qu'on était rarement à 90 km/h avant lundi. Là, on est à 1 heure de pointe, le trafic est dense, on est plutôt à 60-70, donc il n'y a pas une grosse différence.
Bon, merci Christophe, Vincent, et je retiens donc que le micro France Inter peut à l'occasion impressionner. Allez, notre dernier moyen de transport dans le cadre de ce journal, le sulky, 10 sulky volés en l'espace de 2 jours dans le département de l'Orne. Les sulky, vous savez, ce sont ces chariots attelés aux chevaux de course dans les compétitions de trot. Ça coûte cher, jusqu'à 15 000 euros pièce. Depuis 10 ans, périodiquement, les haras français se font dérober ces attelages. Les malfrats sont identifiés, mais les vols en série persistent, Léa Boutin.
C'est à chaque fois le même mode opératoire. Un groupe de personnes s'introduit de nuit dans une écurie, force l'entrée des boxes, vole les onéreux sulky et repart en toute impunité. Il y a une semaine encore, dans l'Orne, 5 attelages ont été volés suivant ce procédé. Franck Bougon fait partie des éleveurs lésés.
Je suis arrivé le matin, il n'y avait plus de sulky, et puis voilà, c'est pas plus compliqué que ça, hein. On n'a rien vu. Hein. Ils sont dans un box avec une chaîne, un cadenas, mais bon, c'est ce qu'on peut faire de plus que ça, on va pas mettre une alarme sur le sulky. Hein.
La filière a été identifiée, les voleurs seraient italiens, et le matériel serait recelé en Italie et à Malte avant d'être expédié vers les pays de l'Est. Surtout, l'équipe semble très organisée et bien renseignée sur les livraisons de matériel des haras, comme l'explique Stéphane Meunier, vice-président du syndicat des entraîneurs de trot.
Pour vous dire que chez un professionnel, le matériel n'avait même pas été déballé, qu'ils ont été volés, quoi. C'est des équipes très organisées. On vient, on sert, on repart.
2 sulky dérobés pour une valeur de 6 000 euros. En une dizaine d'années, près de 30 écuries ont été touchées en France. L'addition s'élève à 500 000 euros au total. Mais pourquoi ces objets sont-ils tant convoités? Les sulky sont chers, car ce sont des outils techniques, souvent en carbone.
Des matériels assez techniques, la fibre de carbone, c'est très léger. C'est pour ça qu'ils sont recherchés. Plus c'est léger, plus c'est moins c'est dur à tirer pour le cheval.
Pour tenter de remédier au problème, les constructeurs promettent d'installer une puce d'identification sur les prochains modèles de sulky.
Allez, voyagez comme vous voulez, mais prenez un billet pour Lille 3000. Cette série de festivités et d'expositions a commencé depuis quelques jours. Le thème, cette année, c'est l'Eldorado, le Mexique invité d'honneur. Tous les musées de la région accueillent des dialogues artistiques sur ce thème de l'Eldorado. Par exemple, une immersion dans la peinture de Diego Rivera et Frida Kahlo à l'Hospice Comtesse de Lille. Les fanfares de la région sont également mobilisés. Isabelle Pasquier.
L'île 3000, c'est une ville qui se croit au Mexique avec d'immenses alébrires, des créatures fantastiques sur la Rambla devant la gare. Cette année, à travers l'art, l'île 3000 interroge ce qu'est l'Eldorado aujourd'hui. Cet Eldorado qui pousse depuis toujours des millions de gens à franchir les frontières pour un paradis fantasmé. Au Mexique, la bouillonnante scène artistique est traversée, bien sûr, par la question du territoire, des frontières. À la Maison Folie de Vazem, on retrouve l'artiste mexicaine Betsa Abbé Romero. Elle travaille avec des pneus sur lesquels elle a imprimé des motifs précolombiens.
J'essaie de découvrir l'autre côté de la voiture, l'autre côté des pneus. Le pneu comme un objet qui m'a permis de récupérer des traces, des mémoires, des cultures qui ont été oubliées, écrasées par la modernité.
Au Palais des Beaux-Arts, l'artiste Mircea Cantor a créé une Golden Room, une pièce entièrement recouverte de couvertures de survie dorées. Étonnante image paradoxale de l'or, de la misère et de l'urgence. L'île 3000, quand la culture bouscule toute une région, la réenchante et lui invente d'autres horizons.
Et demain soir, gigantesque parade dans les rues de Lille, dans le cadre de l'île 3000. Ça devait être samedi dernier, mais la météo n'était pas de la partie. L'île 3000, c'est jusqu'au 1er décembre.
La météo avec Air France. Et la France est plus proche. Envolez-vous du nord au sud et de l'est à l'ouest en moins de 2 heures. Rendez-vous sur airfrance.fr.
Sébastien Léas.
Après le passage d'une perturbation qui reste bloquée sur les Pyrénées cet après-midi, maintenant un temps gris et pluvieux, c'est un ciel de traîne instable qui se met en place. Des éclaircies se dessinent, parfois assez belles, mais au fil des heures, les averses se multiplient, pouvant même tourner à l'orage sur le Jura et le sud des Alpes. Sur les régions du nord-ouest, les averses se décalent vers l'intérieur et laissent place à un temps plus clément. Les zones côtières gardent un temps sec et les plages entre la Vendée et le Pays Basque sont même bien ensoleillées. Ciel plus laiteux sur le pourtour méditerranéen et quelques ondées ne sont pas exclues. En Corse, le soleil brille sur le sud, mais sur le nord, le ciel est plus variable et quelques ondées peuvent se développer. Le vent est sensible sur les régions de la Méditerranée. Les températures de cet après-midi sont en baisse avec 12 à 17 degrés en général, mais encore localement plus de 20 degrés entre la Corse et la Côte d'Azur.